Ceci est le premier entretien avec Erwin Dejas, historien de la bande dessinée, autour de son travail de recherche qui a mené à l'écriture de sa thèse « La musique silencieuse de José Muñoz et Carlos Sampaio, déconstruction des normes et lecture émotionnelle », une thèse qu'il a défendue en 2015. Alors cette thèse, Erwin, qui t'a amené jusqu'en Argentine, où tu as passé presque un an à écumer les bouquineries et rencontrer des auteurs, comporte un important défrichage historique du rapport entre la charge émotionnelle du dessin et ce que tu nommes l'impérialisme du récit, qui est triomphant dans la plupart de l'industrie. Tu commences par parler d'une expérience personnelle de rencontre avec le médium de la bande dessinée, dans sa plasticité, donc quelque chose, une émotion qui passe vraiment par le regard, par le fait qu'on est un regardeur avant d'être un lecteur, et la puissance plastique des choses que tu rencontres, parfois des choses qui t'ont amené en tant qu'adolescent à comprendre qu'il y avait là un monde d'adultes qui t'échappait encore, mais que pour des raisons plastiques, tu étais invité à commencer à découvrir. Et ça te donne une espèce de rage contre une façon d'aborder la bande dessinée du côté de son pitch, du côté de son histoire, et de le résumer à quelques phrases qui décrit en fait grosso modo l'intrigue.
Oui, ça me paraît une approche très, très pauvre. Il suffit d'écouter certaines chroniques radiophoniques, par exemple, où dans le meilleur des cas, on a droit sur une chronique d'une minute ou deux, à quelques secondes, à quelques considérations très générales sur le dessin. Des chroniqueurs qui, finalement, peuvent chroniquer exactement de la même manière une bande dessinée, un roman, une série télévisée ou un film. Finalement, on est toujours dans ce que j'appelle la suite de Grunstein, l'impérialisme du récit. Et donc c'est une approche qui me semble très pauvre, évidemment, qui nie ce qui fait la force propre de la bande dessinée. Et entre autres, évidemment, au premier abord, mais il n'y a pas que ça, toute sa dimension plastique. Bah, c'est clair que nous ne sommes pas indifférents aux traits. C'est impossible. Supposons le même scénario qui serait dessiné par Giraud et par Reiser, c'est non seulement pas le même dessin, mais c'est plus la même histoire. Et donc le scénario et le dessin, c'est deux entités qu'on découpe de manière un petit peu artificielle, mais qui sont intimement liées et qui sont d'ailleurs insituables. Où commence et où s'arrête un scénario dans une bande dessinée? Mais ça n'empêche qu'effectivement, l'industrie de la bande dessinée, elle nous a habitués à des dessinateurs qui sont un petit peu interchangeables. Regardons dans Bambou, je pense que celui qui fait les plombiers pourrait très bien faire les rugbymen, et inversement, ça ne changerait pas grand-chose. Même chose pour ces séries d'Heroic Fantasy de chez Soleil ou Delcourt, par exemple. Donc ça prouve bien que là, on est dans un dessin qui est une sorte de support d'appoint par rapport au scénario. Et d'ailleurs, la subdivision dessinateur-scénariste, je pense, elle relève de ça aussi. Alors il y a une espèce de paradoxe par rapport à mon travail, parce que justement je parle de Muñoz et Sampaio, où là pour le coup on a un couple dessinateur-scénariste, mais l'espèce d'osmose qui existe entre les deux créateurs, et le fait d'ailleurs que la fonction de dessinateur et de scénariste, il y a quelque chose qui se confond très fort chez eux, dans la mesure où Sampaio, sans jamais dessiner quoi que ce soit, réfléchit à l'aspect visuel des choses, et Muñoz à ce qui relève aussi de la construction du récit. On pourrait dire que c'est en gros Muñoz fait le dessin et Sampaio les textes, mais puis il y a tout le reste qui est fait à deux. Mais dans la plupart des cas, c'est souvent pas comme ça. Je veux dire, dans les tout venants de la production, de ces couples dessinateurs-scénaristes souvent interchangeables, on est dans un rapport qui est très, très formalisé, où en gros, le dessinateur reçoit, tiens, ce dessin-là, tu le mets là, tu le mets de face, tu le mets de profil, il faut qu'il rentre par telle pièce, etc. Donc il y a quelque chose qui relève d'une forme d'exécution a posteriori du scénario. Donc on peut finalement même se demander à quoi sert le dessin dans ces cas-là. Or, c'est nier une chose, c'est la force plastique de tout ça. Le dessin en bande dessinée a été assez peu étudié, beaucoup moins que les constructions narratives. Il y a un tas de dessinateurs très remarquables, et surtout, on est dans ce qu'on peut appeler un dessin proliférant. Une planche de bande dessinée, rien déjà qu'une planche, on va trouver au minimum, il n'y a pas de minimum, mais on peut trouver 6 dessins différents, parfois plus. Un album même standard, 48 pages couleur, on a déjà un nombre de cases absolument considérable. Et je pense qu'il y a très peu, il n'y a peut-être même pas d'autres modes d'expression où on est à ce point bombardé par ces traits. C'est-à-dire qu'on est chaque fois, on n'est pas comme face à une peinture où on va prendre le temps de la contemplation, on est dans un musée, on s'arrête, on regarde, on se balade dans l'image. Ici, on passe d'une case à l'autre, paf, paf, et chaque fois on est bombardé par ce que j'appelle les sonorités graphiques du dessinateur. Et ça nous affecte beaucoup, je pense, et même un des plaisirs qu'on a dans la bande dessinée est certainement lié au dessin, lié au fait de retrouver la gestuelle, une manière de représenter la ligne, une manière de poser l'encre sur la feuille qui va nous marquer. C'est assez difficile à expliquer ce plaisir-là, et donc ce que j'ai fait par une espèce de pirouette, c'est d'essayer de comparer ça à la musique, parce que me semble-t-il, il y a des choses qui sont assez similaires. Mais surtout, c'est beaucoup plus facilement admis en musique, c'est-à-dire qu'on dit « Ah, j'adore Joy Division, j'adore la voix du chanteur, j'adore John Coltrane, son son de clarinette tue. » On dit beaucoup moins « J'adore le dessin de Franquin, son trait est incroyable. » Et je pense que le fait de lire ces bandes dessinées, de les relire, de se replonger là-dedans, fait qu'on va retrouver quelque chose qui est de l'ordre de cette familiarité qu'on a avec le son, avec une manière particulière de produire du son, et de la même manière, une manière particulière de produire une ligne, de produire une masse. Je pense que quand on aime un dessinateur, on découvre un bouquin qu'on n'a pas encore lu, qu'on ne connaît pas, et là, on se retrouve dans quelque chose qui est familier et on retrouve cet auteur-là. Et je pense qu'il y a aussi un plaisir de reconnaître ça, de retrouver cette intimité qu'on a avec le trait. J'avais fait un petit jeu dont je parle dans la thèse, que j'avais fait sur Facebook, et puis par la suite, j'étais invité à faire ça en public, à la fois au Klaxon à Anvers et à Périscopage à Rennes, où ayant vu ce petit jeu, ils m'ont proposé de le faire en public, donc qui consistait à prendre un morceau de case, donc d'agrandir très fort une case de bande dessinée, et d'isoler là-dedans un fragment, avec la contrainte qu'en principe, ce fragment, plus rien ne doit être reconnaissable. Donc c'est à ce point agrandi qu'on ne voit plus que des lignes, que des traits, que des masses. Et voilà, et l'idée, bah, j'ai posté des images comme ça sur Facebook, et puis il s'agissait de reconnaître quel était l'auteur, et je pense qu'il n'y en a pas une seule qui a mis moins d'une minute à être reconnue, quoi. Je sais pas, un gamin qui a lu 20 albums de Lucky Luke, qu'est-ce qu'il a été bombardé par le trait de Maurice? Qu'est-ce qu'il a été bombardé par ses sonorités graphiques? Et donc il y a quelque chose que notre cerveau enregistre là-bas, il y a une familiarité qui se crée et qui fait que ça devient éminemment reconnaissable et que c'est aussi, me semble-t-il, un des plaisirs de la bande dessinée.
Tu parles aussi d'un plaisir de lecture qui est celui par lequel on appréhende la bande dessinée simplement en tournant quelques pages, et puis on peut s'arrêter au cours des récits, et puis parfois aussi revenir à la fin du récit, donc une temporalité qui n'est pas du tout une temporalité linéaire ou vectorisée, comme tu emploieras le terme plus tard.
Oui. Donc quand je dis vectoriser, pour expliquer, c'est lire la case 1, appréhender son contenu, le dessin et le texte s'il y en a, on assimile les informations et on passe à la case 2, et puis à la case 3, etc., etc. Ça, c'est la lecture vectorisée. Sauf que dans la réalité des faits, oui, il y a cette lecture-là que tout le monde expérimente, mais dès que j'ouvre le bouquin, déjà si je suis dans une librairie, je vais pas le lire en entier, donc je vais un petit peu regarder. D'ailleurs, est-ce qu'on lit vraiment? Je pense qu'on cerne des éléments d'intrigue en se baladant là-dedans, mais on est déjà en train de s'imprégner de l'œuvre au moment où on se balade. On n'a peut-être pas commencé à la lire, mais on est déjà dedans. Et puis quand on rentre chez soi, on s'assied, on va ouvrir son bouquin et commencer par la page 1, on est effectivement dans cette lecture vectorisée, mais on vagabonde en même temps aussi. J'ouvre la double page ou la première page, je ne vais pas essayer d'aller placer mon œil en haut à gauche, en évitant de voir ce qui se passe dans les autres cases. Non, il y a quand même, au moins partiellement, même si c'est flou, il y a quelque chose de ces images-là qui m'est parvenu. Et donc on a déjà anticipé toute une série de choses. Donc le regard, il part en tout sens, à tout moment. Je me plonge dans le récit en allant de case en case, mais en même temps, le champ de vision fait qu'il y a déjà des choses que j'ai appréhendées. Et puis effectivement, par la suite, rien ne m'empêche, évidemment, une fois que j'ai en gros épuisé, on va dire, le contenu narratif, je peux commencer à me rebalader là-dedans. Lecture vectorisée, lecture vagabonde, j'ai un petit peu utilisé ça par facilité, parce que dans les faits, je pense qu'on fait à peu près les deux en même temps, en permanence, quoi. Et je trouve qu'il y a un phénomène qui est assez intéressant, j'en parle pas dans la thèse parce qu'il est vraiment très très subjectif et difficile à expliquer comme ça, mais pour en avoir parlé avec pas mal de monde, je crois que j'ai pas mal d'amis qui partagent ce genre d'expérience, et on se retrouve dans une librairie, on ouvre le bouquin. C'est pas uniquement de l'ordre du dessin qu'on va voir, hein. Puis le dessin, il peut ne pas être spécialement spectaculaire, mais on lit, on feuillette, on regarde à gauche et à droite, on se balade, on vagabonde, et puis on sent bien que, tiens, là, il se passe quelque chose, quoi. Je sais pas trop de quoi ça parle. Le dessin peut même avoir l'air un peu ingrat, mais on sent que c'est bien. Et en général, la lecture complète de l'œuvre, elle conforte pratiquement toujours cette sensation qu'on a eue au départ, quoi. Il y a à la fois peut-être la séduction du dessin, mais aussi on se rend compte que le dessin est adéquat pour raconter. Et quand je dis raconter, c'est pas uniquement un système d'intrigue, c'est aussi la capacité à créer un flux. C'est toute cette mécanique qui est extrêmement complexe, avec des composantes multiples, qui fait que tout ça se réunit à un moment donné, et vouloir extraire de là, de manière tout à fait artificielle, un récit qui serait en quelque sorte l'âme de cet ensemble, hein, comme il y a un fil dans un personnage en latex. Non, c'est faux, le récit, il est insituable.
Tu prends un truchement aussi pour pouvoir parler de cette bande dessinée qui échappe à cet impérialisme du récit. Tu vas convoquer les premiers moments de l'abstraction en peinture. Une série d'artistes revisite le patrimoine de la peinture figurative en allant y chercher des qualités plastiques et tu le reprends pour l'injecter dans la manière dont tu regardes la bande dessinée.
L'idée n'était pas du tout d'imposer à la bande dessinée une lecture qui soit purement formaliste. Donc de dire, ben, regardons, enfin si on peut le faire en fait, l'idée c'est un peu ça, c'est de dire, ben, regardons d'abord une planche de bande dessinée comme une image. Je dis ça un petit peu aussi pour à un moment donné parvenir à mettre le récit entre parenthèses de façon à pouvoir explorer d'autres territoires. Et je dis bien, je le mets entre parenthèses, il ne s'agit pas de l'exclure. Et d'ailleurs, même je pense, la jouissance qu'on a sur le trait, elle est peut-être liée quand même à quelque chose qui est narratif aussi. Enfin, le dessin contient lui-même, c'est un peu difficile à expliquer, mais me semble lui-même contenir de la narration, hein. Mais ceci posé, ben, oui, on peut se balader dans une planche. J'utilise ce fameux tableau de Magritte, là, la clé des songes, par exemple, qui est divisé en six, j'ai presque envie de dire, en six cases. Et qui, parce que je suis dans un musée, parce que c'est une peinture, je vais aller vagabonder là-dedans, je peux l'attaquer au milieu, etc., et pas en commençant en haut à gauche. Puis je compare ça avec une planche qui est faite, elle aussi, de six cases, et donc rien ne m'empêche, évidemment, d'aborder ça de la même manière, de prendre des chemins multiples, ça se lit en tous sens, d'apprécier peut-être le récit, mais de regarder comment c'est fait, de regarder le trait, de regarder comment la planche est composée, etc. Enfin, tout ça sont des choses absolument fondamentales et que peut-être le lecteur ne verbalise pas nécessairement, dont il n'a peut-être pas nécessairement conscience. Quand on lit les commentaires sur certains forums, on a l'impression qu'effectivement, là aussi, l'impérialisme du récit a complètement colonisé les cerveaux du lecteur, mais je pense que même à son corps défendant, il y a une jubilation de tous ces éléments-là qu'on peut retrouver dans la peinture.
Cette manière de mettre le récit en avant, il va se construire particulièrement fort dans les années 30 grâce à ce qu'on va appeler la bande dessinée réaliste qui va venir comme figer une partie du patrimoine de la bande dessinée future. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois.